Les colloques du Collège de France.
Contrairement à l'habitude où tous les orateurs des différents colloques que j'organise sont présents, là il s'agit d'une présentation par visioconférence parce que par souci d'économie et de pour ne pas trop injecter de gaz carbonique dans l'atmosphère, on a décidé avec ce dernier orateur, qui est Julien Émile Jay, qui est professeur à University of Southern California à Los Angeles, de faire cette présentation en visioconférence. Donc, il s'agit de la vedette américaine de la journée, même si une vedette américaine vient en première partie. Et là, il s'agira en fait d'une clôture du colloque. Donc, Julien probablement va revenir sur certaines notions, mais pour que sa présentation ne soit pas trop qu'il ne soit pas obligé de se lever en pleine nuit, on a décidé de le programmer à la fin de cette journée pour la clôture. Voilà. Et donc le titre de sa présentation va être Variabilité spatio-temporelle du climat de l'aire commune. Et pour ceux qui ne savent pas, l'aire commune, ce qui est un terme assez peu usité, je crois, en français, c'est les derniers 2000 ans, notre ère, ère commune, common era, donc qui commence depuis l'an 1. Parce que dans le calendrier des historiens, il n'y a pas d'année zéro. L'année zéro n'existe que dans le calendrier des astronomes. Voilà. Et donc, voilà, je vois que Julien est en ligne. J'espère que tout va bien pour cette connexion et qu'il va pouvoir nous parler et interagir. Et on pourra lui poser des questions ensuite. Voilà. Julien, tu as la parole si tu peux parler. Voilà. Merci.
Avec plaisir. Oui, je serais ravi d'être parmi vous, mais pour les raisons qu'a souligné Edouard, il était plus pratique que je me connecte aujourd'hui en ligne, donc j'espère qu'on n'en perdra pas trop en spontanéité, et s'il vous arrive des questions, je ne peux pas tellement voir les mains qui se lèvent, mais je fais confiance à Edouard pour modérer le dialogue. Alors, il y a un certain nombre de thèmes, effectivement, que je voudrais reprendre. Je remercie les orateurs et oratrices précédents pour les avoir abordés, ce qui me permet de gagner un petit peu de temps. Je voudrais remercier par avant un certain nombre de mes collaborateurs, parce que ce que je vais vous présenter, c'est le fruit de beaucoup de travaux par beaucoup de gens, quelquefois plus d'une presque une centaine d'entre eux pour certaines de ces compilations. Sur beaucoup d'années, donc c'est un travail de longue haleine. Et voilà, donc je vais aborder ces quatre thèmes-là, j'espère pouvoir me tenir aux restrictions horaires. Et avant plus de science, je voudrais préalablement m'excuser des franglicismes qui vont certainement se glisser dans la conversation, à l'instar de ceux de Jean-Claude Van Damme, qui fait le grand écart entre les États-Unis et l'Europe depuis longtemps. Et donc ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que je suis aux États-Unis, donc j'ai très rarement l'occasion de parler science en français, donc je vais certainement bafouiller et vous faire pas mal d'anglicisme, donc je m'en excuse au préalable. Voilà. Cela étant dit, j'aimerais qu'on reprenne ce thème du climat depuis l'an 0 ou l'an 1, sans faire de polémique. En particulier, ça c'est une étude à laquelle j'étais associé, que Myriam Caudry a mentionné précédemment, et qui a été reprise un peu dans cette figure qui est un peu en figure de proue du dernier rapport du GIEC. Peut-être à tort ou à raison, où on montre effectivement que le réchauffement récent est très très fait une anomalie, une aberration si l'on veut, par rapport au climat des 2000 dernières années, qui est beaucoup plus stable, donc à la fois sur le niveau des températures et sur encore plus sur la rapidité du taux de réchauffement. Une façon de mettre tout ça en perspective, c'est effectivement de regarder les reconstructions de regarder un peu qu'est-ce qui se cache sous cette courbe bleue que vous voyez là, qui est issue du de la figure 1 du premier rapport du GIEC, enfin, ce qu'on appelle le Summary for Policymakers, donc le résumé pour les décideurs. Et en fait, comme le soulignait Myriam, il y a sept méthodes statistiques qui ont été appliquées à une compilation de données qui est celle de ce qu'on appelle Pages to K. Il se trouve que j'étais associé à deux de ces méthodes, celle qui s'appelle ici DA pour assimilation de données, l'autre qui est en BHM, qui est un modèle hiérarchique bayésien. Et donc je voulais vous parler d'abord de ce genre d'effort pour mettre un petit peu en exergue la diversité des données et des approches. Alors ça, je pense que Myriam vous l'a montré aussi, mais bien que je n'ai pas pu voir l'écran, j'ai entendu la description qui rappelait fort cette figure. Donc c'était cette fameuse compilation de données Pages to K qui rassemblait en fait non seulement des données, mais surtout des gens. Et c'est important de donner, c'était vraiment un effort de groupe de rassembler à peu près une centaine de co-auteurs sur toute la planète, avec évidemment une représentation assez forte de l'Europe et des États-Unis, où on trouve la plupart des équipes scientifiques, aussi en Asie, malheureusement beaucoup moins en Afrique ou en Amérique du Sud. Et ce biais se retrouve aussi dans les données, dans la présence des données, donc effectivement la représentation n'est pas homogène. Mais de plus en plus, en particulier si on compare à ce qui se faisait il y a une vingtaine d'années, il y a beaucoup plus de représentations sur les océans, il y a beaucoup plus de représentations dans les tropiques, l'Antarctique aussi est bien échantillonné. Et ce genre d'effort, bien qu'il n'ait lieu que tous les, enfin, qu'à intervalles assez irréguliers pour rassembler les données, est très très important parce qu'il sert vraiment de fondation pour tout ce que je vais vous montrer et une grande partie des choses qui ont été montrées par Myriam et Hugues dans les orateurs précédents. Donc c'est pas la seule façon de faire les choses, mais de rassembler toutes ces données de façon dans des jeux de données homogènes, ça facilite grandement l'analyse et ça, à mon avis, c'est un des facteurs qui a suscité les progrès des dernières années. Alors l'autre facteur, c'est la multiplication d'un certain nombre de méthodes statistiques ou dynamiques. L'une d'entre elles, alors ça c'est une variante sur l'assimilation de données comme a pu la montrer Hugues ou Myriam, donc ça n'est pas un filtre à particules, mais c'est quelque chose d'assez proche. Et l'idée qui est importante ici, c'est vraiment qu'on fait de la fusion entre les modèles et les données. Et alors il y a effectivement tout un tas de... Pour ceux qui connaissent ce genre de choses, ça s'utilise, ce sont des méthodes en fait qui sont issues de la prévision météorologique. Les réanalyses dont parlait Hugues sont exactement cette mouvance. Alors après, il y a tout un tas de variantes, ça se décline un peu à l'infini, sur la façon dont on formule, en fait, c'est un problème finalement d'optimisation, où on essaye de minimiser les différences entre ce que disent les modèles et ce que disent les données. Donc il y a tout un tas de façons de faire, mais la façon dont on a fait, et c'est ici ce qu'on appelle la réanalyse du dernier millénaire, ou LMR pour faire un acronyme, où en fait on modélise explicitement par ce qu'on appelle des proxy system models la façon dont les données paléoclimatiques enregistrent les signaux climatiques, et on fait en fait passer la simulation d'un modèle de climat à travers ces modèles, qui sont des modèles très simples mais qui représentent la connaissance qu'on peut avoir de la façon, par exemple, dont des cernes d'arbres ou des coraux enregistrent les variations de leur environnement. Et ça permet après de faire vraiment de comparer des pommes et des pommes, comme on dit, où on compare effectivement dans l'espace des données, dans l'espace des observations, au lieu de comparer des pommes et des poires, comme on le fait souvent en comparant les variables qui sortent d'un modèle et les variables mesurées qui peuvent être, par exemple, des isotopes de l'eau, comme je pense Valérie Do a pu en parler avant, ou de la largeur de cernes, qui ne sont pas dans les mêmes unités, qui ne sont pas commensurables avec les sorties de modèles. Donc c'est une première façon de faire, j'en montrerai certaines. Donc il y a une façon qu'on dit hors ligne, où, comme le soulignait Myriam, on peut en fait utiliser des collections d'états qui sortent de modèles qui ont été des simulations préalables, mais il y a aussi une façon de faire ça, ce qu'on dit en ligne, où en fait on fait tourner le modèle de façon interactive à chaque pas de temps, et de plus en plus on essaye de s'affranchir des limitations de calcul en utilisant des émulateurs, donc comme il a été mentionné au préalable. Donc je parlerai un peu de ces choses-là aussi. Alors comment ça marche dans la pratique? L'idée c'est que, en tout cas dans la façon dont on l'a fait avec LMR, les modèles sont utilisés seulement pour produire des relations spatiales. Donc ça permet de mettre en communication un proxy qui peut se trouver au milieu du Pacifique avec la température ou la précipitation ou la pression au bord du bassin. Ou même de l'autre côté de la planète. Alors évidemment, l'influence diminue en fonction de la distance, mais pas de façon très simple, donc une façon qui respecte la physique des modèles. Donc ces modèles, on les utilise pour connecter des points d'espace différents et pour connecter aussi des variables différentes. Donc par exemple, la température et la pression. Ce qu'on ne peut pas faire avec des méthodes statistiques classiques, ou en tout cas très difficilement et voilà. On utilise les proxys, eux, seulement pour le temps. Donc en fait, c'est un des avantages, mais aussi un inconvénient de cette méthode, la méthode hors ligne, c'est que toutes les variations temporelles proviennent uniquement des données, des données paléoclimatiques, donc ce qu'on appelle proxy. Et en fait, on utilise ces modèles proxy system models, comme on les appelle en franglais, pour obtenir l'amplitude, en fait, pour l'amplitude des variations. Donc, comment ça se passe? C'est qu'on joint, en fait, un algorithme comme celui-là avec, par exemple, une compilation comme celle de Pages2K. On utilise quand même les données récentes pour faire la calibration. Et on peut obtenir des reconstructions, donc qu'on voit là en noir, c'est celle sur laquelle nous avons travaillé, qui a été publiée en 2019 par un papier de Robert Tardif, et c'est comparé ici à tout un tas de reconstructions indépendantes. Alors, certains de ces données sont complètement ou plus ou moins indépendantes, parce qu'il y a effectivement une certaine circularité, comme le soulignait Edouard. Là, en l'occurrence, c'est qu'on utilise des données récentes de température pour calibrer certaines choses. Alors, on calibre localement, et là, on vérifie globalement, donc il y a quand même un petit degré d'indépendance. On peut aussi faire cette vérification dans l'espace, donc là, sur la carte qui est en bas de l'écran à droite, les zones rouges sont celles où la reconstruction marche bien, elle fonctionne bien. Les zones bleues sont celles où elle fonctionne moins bien, donc plus c'est rouge, mieux c'est. Donc c'est pas parfait, mais c'est quand même impressionnant. Et en fait, ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a un petit désaccord quand même déjà entre certains jeux de données, des jeux de données modernes. Donc si vous comparez par exemple ERA20 ou 20CR, ce sont des jeux de données issus de l'assimilation de données modernes, donc par exemple satellitales ou des données de température de surface instrumentale. Et même entre ces jeux de données-là, il y a certaines différences. Et donc ce qui est remarquable, c'est qu'on a avec simplement en fait cette méthode où on marie des données paléoclimatiques, une petite calibration sur des données modernes, mais sinon on injecte des données qui proviennent d'un modèle, et on arrive quand même à quelque chose qui est qui rentre vraiment dans le moule de ces données instrumentales. Donc c'est assez remarquable, en fait, si on regarde les détails, c'est quelque chose que les gens n'apprécient pas toujours. Il y a une autre manière de faire cette validation indépendante, et c'est très important qu'Edouard l'ait souligné avant, c'est que, en tout cas dans cet algorithme-là, on utilise seulement une partie des données paléo, et on en réserve une certaine partie, donc 25%, pour vérifier que, en gros, la méthode ne fait pas n'importe quoi. Donc, on peut soit avoir des jeux de données complètement séparés, et donc je vais vous montrer un exemple plus tard où on utilise en fait des données historiques, des données issues de documents, pour valider en fait une approche comme celle-ci. Ou alors, on peut tout à fait imaginer qu'on met les données documentaires au même titre que ces données paléo-naturelles, mais que à chaque fois qu'on fait ça, et donc dans l'algorithme LMR, en fait, on fait ça une vingtaine de fois. Donc, une vingtaine de fois, on tire au sort, en fait, et on utilise 75% des données pour faire tourner l'algorithme, et on en réserve 25% pour vérifier que l'algorithme ne fait pas n'importe quoi. Donc là, c'est un exemple vraiment sur très très peu de données, parce que c'était en fait ce qu'on appelle une preuve de concept, mais ça vous montre en fait comment on peut utiliser ça, et l'intérêt dans cet exemple-là, c'est de montrer que en fait, les distributions sont relativement cohérentes entre les proxys assimilés et les proxys non assimilés. Donc ça veut dire en fait qu'il n'y a pas de... Chaque fois qu'on fait des exercices statistiques où on utilise des données, il y a un risque qui est... Alors je ne connais pas l'équivalent français, mais on appelle ça overfitting. C'est-à-dire qu'on a tendance à mimer ou à essayer de passer trop près des observations. Et donc ça, c'est très bien connu des gens qui font de la régression, par exemple, si on insiste pour reproduire tous les points, on peut avoir une situation où le modèle ou la méthode a l'air très reluisante, on va dire, sur la période pour laquelle elle a été calibrée, mais dès qu'on fait une vérification indépendante, donc sur une autre période temporelle, une autre région d'espace ou avec d'autres données indépendantes, la qualité de la reconstruction s'évapore. Et là, donc, ce qui veut dire qu'il y a des mécanismes en fait au sein d'approches comme ça pour éviter ce genre de circularité. Donc voilà, c'était important de le dire pour répondre à la question d'Edouard. Alors, comment visualiser ces choses-là? C'est que c'est un sujet qui me tient à cœur. Ce qui est important, enfin, ce dont il est important de se souvenir, et je pense que c'est une approche qu'on voit pas forcément beaucoup en histoire, c'est que effectivement, on peut se focaliser sur la moyenne, qui est en fait l'état le plus probable reproduit par ces méthodes. Donc, ça serait par exemple ici la médiane ou la moyenne serait très proche, qui est la ligne rouge. Mais ce qui est beaucoup plus important, en fait, c'est de regarder en fait toute la distribution. Donc, que ça soit par exemple les 50% qui soient autour de la médiane, ou que ça soit les 95%, et on s'aperçoit que si on regarde que la médiane, en fait, on a ce genre de bandes bon, qui utilisent un peu la méthode Ed Hawkins pour représenter ça. Donc c'est très bien parce que ça permet de faire de la communication grand public et ça permet de mettre en exergue certaines années un peu comme un code-barre. Mais avec ce genre de méthode, on ne voit pas du tout les incertitudes. Alors que je pense qu'il est très important de montrer, c'est comme on le voit sur la figure du haut, c'est que les incertitudes en fait grandissent plus on va en arrière. Et ça, c'est une conséquence directe du fait que on a de moins en moins de données et des données de plus basse qualité, on va dire, avec moins de résolution, plus on va en arrière dans le temps. Et ça, c'est important de souligner aussi en termes de progrès, c'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années, dans les premières reconstructions, par exemple, de Michael Mann, il y avait des estimations de l'erreur qui étaient beaucoup moins affinées, qui étaient quelquefois constantes. Et là, en fait, ce sont des méthodes, enfin, ça n'est pas la seule. Évidemment, la simulation de données, ça n'est pas la seule manière de faire ça. Mais une des choses qu'elle fait bien, c'est de montrer, en fait, à quel point les incertitudes grandissent, en allant en arrière dans le temps, à cause de ce genre de choses. Alors, il y a d'autres manières de montrer. Ça, c'est pour les fans de Joy Division. C'est une autre façon de montrer les choses. Ici, vous avez le temps sur l'axe des ordonnées. Et c'est pour montrer encore une fois que ce qu'on visualise fondamentalement avec ça, ce sont des distributions. Et donc là, la période moderne, donc qui correspond par exemple à la dernière décennie du XXe siècle, on voit à quel point elle sort du lot. Donc elle n'est pas complètement distincte, par exemple, du reste du XXe siècle, mais quand même la masse de la distribution est fortement tournée vers la droite, et on peut, voilà, en repartant dans le temps, évaluer ce genre de choses de façon beaucoup plus rigoureuse statistiquement. Je voulais parler un petit peu du chaos, parce que c'est un sujet qui a été évoqué par Myriam notamment, et pour lequel en fait Pascal avait cette très belle phrase en disant le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la Terre aurait changé. Ce qu'il voulait dire en fait, c'est qu'il y a parfois de petits effets qui peuvent avoir des conséquences à long terme qui sont bien plus importante. Et ça, tous les gens qui font de la prévision météorologique le savent, et Hugues et Myriam en parlaient. C'est-à-dire que l'atmosphère et l'océan sont chaotiques. Et ce que ça veut dire tout simplement, c'est que si on part dans un point de départ donné, on a en fait toujours une petite incertitude sur ce point de départ, et quelle que soit en fait la précision avec laquelle on connaît ça, il y a un certain nombre de trajectoires qui divergent, des trajectoires qui donnent par exemple dans un cas une tempête qui se développe sur ici les îles britanniques, parce que ça c'est le travail de collègues britanniques, ou non. Et donc en fait, dans tout ce qu'on fait, on regarde vraiment des histoires de probabilité, on regarde des ensembles statistiques, parce que on ne peut pas se fier à une seule de ces trajectoires. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, l'histoire climatique n'était pas inévitable. Donc on ne peut pas dire on a eu une seule séquence d'événements qui s'est produite. On a en fait tout un tas de séquences possibles. Et donc la plupart des méthodes de nos jours donnent un certain nombre de ces séquences. Donc ce que vous voyez là en gris, c'est la densité de probabilité. Alors ça dans une reconstruction plus récente qu'on appelle LMR en ligne, qui date de 2021. Et les deux couleurs, là, en orange et en bleu, représentent simplement deux trajectoires qui sont issues de cet ensemble. Donc l'idée que je voulais simplement faire passer ici, c'est que il est très important de représenter ces incertitudes et qu'on peut le faire par des trajectoires, ce qui permet en fait après de se livrer à tout un tas d'exercices, comme ont pu le montrer certains des orateurs précédents. Alors, une autre façon de faire, c'est ça, c'est avec un modèle un petit peu différent, c'est un modèle statistique bayésien, où là, pour le coup, on représente directement l'effet des forçages sur la température T qui est représentée ici. Et alors, l'idée, c'est que ça permet en fait de faire rentrer donc le forçage volcanique, comme il est montré ici en jaune, le forçage solaire, comme il est montré en rouge, et auquel Édouard et les données qu'il produit ont beaucoup contribué, et les forçages dus aux gaz à effet de serre, en l'occurrence le dioxyde de carbone ici en noir. Et en faisant rentrer ça en fait dans le modèle, on arrive à d'obtenir des estimations du changement climatique qui représente ça en partie, et on arrive notamment à faire une attribution directe. Et ce qu'on voit ici, c'est que bah, le les en gros la signature due aux gaz à effet de serre est très très marquée dans ces reconstructions. On voit on peut détecter aussi très bien un effet des changements du forçage volcanique, mais que, et ça c'est en vert, et vous voyez zéro est ici, en gros il y a assez peu d'effets du forçage solaire là-dedans, même si c'est un des ingrédients qu'on fait rentrer dans ces reconstructions. Donc voilà, le forçage solaire expliquerait assez peu de choses, le forçage volcanique plus, mais comme on le soulignait auparavant, je pense que la variabilité interne est vraiment primordiale quand on regarde le dernier millénaire ou les deux derniers millénaires. Et que voilà, pour en revenir au nez de Cléopâtre, ça veut dire qu'en fait on a tout un ensemble de trajectoires possibles qui sont un peu le fruit du hasard. Alors voilà, pour en revenir ici, c'était donc ces deux méthodes-là qui sont en bleu et en marron. Et donc ça vous montre un peu que effectivement il y a une certaine incertitude à prendre en compte, c'est-à-dire qu'il y a une diversité non seulement des données, mais aussi une diversité des méthodes et qu'elles donnent des résultats qui sont parfois, enfin, qui donnent l'impression d'être divergents. Donc ce que je vais faire un peu plus tard, c'est vous montrer qu'elles ne sont pas en fait si divergentes que ça. Alors, parlons un petit peu d'effet d'espace. On a parlé de la réponse au forçage volcanique, En particulier du fait que assez fréquemment, ça c'est une figure adaptée du rapport du GIEC numéro 5, donc qui datait de 2013, où on montrait en fait qu'il y a un refroidissement, comme le soulignait Myriam, qui a lieu après des éruptions volcaniques, mais que ce refroidissement est généralement beaucoup plus fort dans les modèles que dans les reconstructions. Il y a un certain nombre de causes à ça, qui ont été expliquées par exemple dans ce papier de 2020 par mon étudiant Feng Zhu. Mais la question que je voulais poser aujourd'hui, c'est aussi celle de la structure spatiale. Parce qu'en fait, il y a une grosse variabilité d'éruption à éruption. Elles ont lieu dans des lieux différents, à des saisons différentes. Et ça donne lieu, en fait, à une physionomie différente pour chaque éruption de la réponse climatique. Donc on peut regarder la variabilité spatio-temporelle dans ces reconstructions. Donc c'est l'intérêt, par exemple, de quelque chose comme LMR, c'est-à-dire qu'on reproduit tout un champ climatique. Donc là, je vous montre, par exemple, les trois premiers modes de la variabilité. Donc pour ceux qui connaissent, ça s'appelle une analyse en composante principale. Et on voit qu'on a effectivement un premier mode qui, en fait, et se projette principalement sur la trajectoire qu'on connaît bien, en fait, avec le pardon pour les unités qui sont pas bien ressorties sur celui-là. C'est la période récente, en fait, donc le 20e siècle ici. Et donc on voit qu'on a un motif qui est relativement uniforme, mais qui a quand même certains hotspots, comme on dirait en anglais. Là, en l'occurrence, c'est assez inquiétant. On voit que c'est probablement dû à la répartition des données qui, en fait, tire un peu la reconstruction dans cette direction. On voit que le deuxième mode correspond vraiment à El Niño, et le troisième mode est beaucoup moins net. Il n'est pas dit d'ailleurs qu'on puisse reconstruire beaucoup de modes indépendants, en fait. C'est une des questions qui reste en suspens. Avec les données actuelles, il n'est pas dit qu'on puisse reconstruire énormément de modes distincts. Mais une des choses qu'on peut faire, c'est de faire ces petits tableaux, en fait, où on peut regarder pour chaque éruption sur les 2 derniers millénaires, comme par exemple elles ont pu être répertoriées dans le jeu de données de Tuohy and Siegel, qui s'appelle Evolve 2K, dont je pense Myriam a pu parler. On peut regarder, en fait, à la fois le forçage volcanique lui-même, donc en gros à quel point la stratosphère a pu être injectée de particules réfléchissantes dues à ces volcans, et regarder, comme ici à droite, la réponse du système climatique. Donc ça, c'est pour montrer, en fait, l'aspect multivarié de ces reconstructions, où on reconstruit à la fois la température, comme en couleur ici, on reconstruit en gros la pression, donc là où la hauteur de géopotentiel au milieu de la troposphère, comme le représentent ces contours noirs, et on peut représenter aussi la précipitation. Alors après, le scale, comme on dit, la qualité de la reconstruction varie en fonction des champs. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a vraiment un cadre dynamique dans lequel on peut étudier la réponse à certaines éruptions. Donc ça, c'était celle de Kauai dans l'année 1458. Il me semble que la date a été bougée assez récemment. Mais ce qu'on montre ici, c'est que, enfin, une des choses à regarder, c'est qu'il y a des différences régionales importantes. Donc, par exemple, on voit qu'il y a un refroidissement sur l'Amérique du Nord, en grande partie, alors que l'Europe, l'Eurasie et même une partie de l'Afrique ont l'air de se réchauffer ici. Donc, en fait, c'est vraiment important de regarder ces effets spatiaux, parce que même si, à l'échelle globale, on enregistrerait plutôt un refroidissement sur l'échelle globale, de façon locale, on peut avoir des effets qui sont très variés. Alors, ça se voit très bien, par exemple, pour la réponse à Tambora, où ici, on a vraiment un peu un cas d'école, où on a vraiment l'impression d'une propagation d'ondes dites de Rossby, des ondes planétaires, qui ont l'air de se propager depuis les tropiques jusque l'Amérique du Nord, et enfin, en gros sur le Pacifique Nord et le Pacifique Sud, et qui, en fait, ont des effets planétaires. Donc ça, encore une fois, suivant l'endroit où on collecte les données, on pourrait avoir des réponses totalement différentes. Donc c'est important de s'en souvenir. Si vous voulez faire votre propre tableau, d'ailleurs, tout le code pour ça est en ligne, et donc le lien est en bas. Et donc c'est important de dire là-dessus, c'est que les structures spatiales renseignent sur la dynamique, alors pas exclusivement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours identifier exactement les processus physiques qui sont derrière ce genre de chat, ce genre de choses, mais ça donne certaines idées qui sont importantes. Voilà, alors encore une ou deux, ça c'est l'éruption de Parker en 1641. Donc celle-là qui avait lieu plutôt dans l'hémisphère nord, et donc on voit là pour le coup un refroidissement qui est hémisphérique et qui est relativement homogène. Mais cela dit, si on se met à Montaillou par exemple, la flèche ne pointe pas précisément vers Montaillou, mais je pensais à cette idée des travaux d'Emmanuel Leroy-Ladurie où on regardait en fait un aspect extrêmement local parfois, l'effet du climat, et donc je ne veux rien enlever à ça, mais je veux simplement dire que pour faire des reconstructions de ce type-là, il faut en fait faire une espèce de mosaïque de toutes ces reconstructions locales, et qu'on ne peut pas se fier seulement à un point. Voilà, pas la même chose ici, où si on regardait par exemple les données sur l'Europe, on verrait très peu de choses, mais on voit un refroidissement beaucoup plus important dans d'autres régions du globe. Donc voilà. Donc une vue globale est vraiment essentielle pour éviter les généralisations abusives. Ça nous amène à un point qui, à mon sens, très important, c'est celui de cet optimum climatique médiéval. C'est quelque chose qui était connu des historiens, en particulier Hubert Lamb. Ça, c'était dans le premier rapport du GIEC en 1990. Il y avait cette courbe qui laisse beaucoup à désirer. Je pense que si de nos jours un étudiant venait de défendre une thèse avec ce genre de graphique, ils auraient beaucoup de problèmes, en particulier parce que vous voyez ici, il n'y a pas d'unité, sur l'axe des ordonnées. Donc on ne sait pas s'il s'agit de 1 degré, 10 degrés ou 0,1. Puis c'était quand même très qualitatif. Mais néanmoins, donc voilà, il y avait cette idée relativement qualitative que, en tout cas en Europe, vers l'an 1000 ou un peu avant, il y avait en fait un espèce d'optimum climatique qui se retrouve reflété dans tout un tas d'archives documentaires. Et donc c'était naturel de généraliser ça, de penser que c'est peut-être le cas dans tout l'hémisphère nord. On sait aussi évidemment que c'est à peu près le moment où les Vikings ont réussi à traverser l'Atlantique, à installer des colonies au Groenland. Donc il y a tout un tas d'événements historiques qui font penser qu'en tout cas dans l'Atlantique nord, les choses étaient relativement chaudes. On peut faire ça de façon plus rigoureuse maintenant, vu qu'on a des reconstructions globales. Donc ça, c'est une analyse que j'ai faite qui est pas publiée, mais qui est assez simple à faire, où on peut regarder en fait pour des périodes, des blocs en fait de tailles diverses, donc 10 ans, 25 ans, 50 ans ou 100 ans. Là, en l'occurrence, j'ai pris 25 ans dans cet exemple. Donc vous voyez cette bande rouge qui représente les derniers 25 ans de l'ère commune. Et on peut regarder deux choses. On peut regarder le niveau du réchauffement, donc qui est représenté par ce gros point, ou on peut regarder le taux de réchauffement, donc qui est en gros la pente de ce segment, cette ligne rouge. Et on peut comparer ça avec tous les segments précédents. Donc on peut se demander, est-ce que la température sur cette période, sur ce bloc le plus récent, comment on la compare avec les périodes précédentes et comment comparer le taux de réchauffement sur des périodes analogues. Alors on peut répéter cet exercice et on peut le faire en fait pour toutes les périodes de 25 ans. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est le résultat qu'on fait sur ces différents blocs. Donc des blocs de 10 ans, 25 ans, 50 et 100 ans. Et en fait, ce qu'on peut se poser la question, c'est quelle est la probabilité que la période la plus récente sorte du commun. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que pour les périodes de 10 ans, 25 ans et 50 ans, cette probabilité est voisine de 1. Donc, enfin, vos yeux vous le direz aussi, c'est-à-dire qu'il est très très clair sur ce genre de courbe que la période récente est anormale. Ça se retrouve aussi sur les tendances, et les rôles sont un peu inverses, c'est-à-dire que ici, quand on regarde des périodes de 100 ans, on peut trouver des périodes de 100 ans qui ont plus ou moins la même température. Enfin, on peut en trouver en gros 13%, donc pas beaucoup, mais ça peut se trouver. En revanche, quand on regarde les tendances, donc le taux de réchauffement, c'est un peu l'inverse. Donc, on peut trouver à peu près la moitié des décennies précédentes ont des taux de réchauffement sur 10 ans. Qui sont comparables à celui qu'on a pu obtenir par exemple entre 91 et 2000, parce que c'est à ça que ça correspondrait. En revanche, dès qu'on allonge ce segment, dès qu'on regarde des blocs un peu plus longs, donc à partir de 25 ans, on voit en fait qu'il n'y a absolument aucune commune mesure et que le taux de réchauffement soutenu sur des périodes aussi longues n'a absolument aucun précédent dans les 2000 dernières années. Et alors, puisqu'on parle d'effet d'espace, on peut regarder ça aussi en espace. Donc, ce que vous voyez là en jaune, ça correspond en fait en gros à cette probabilité-là. Alors là, c'est calculé sur 30 ans. En jaune, en fait, on montre les endroits où la période récente est anormale. Enfin, la probabilité qu'elle n'ait jamais été vue en fait au cours des 2 derniers millénaires. Et donc, ce que ça vous montre ici, c'est que dans la plupart de la planète, hein, ces cartes sont quand même en jaune en grande majorité, dans la plupart de la planète, en fait, il y a aucun analogue précédent. Il y a certaines zones particulières dans l'océan austral, donc qui sont des zones qui sont très peu observées. Donc en fait, ce que ça représente ici, c'est tout simplement l'incertitude. Donc on ne sait pas. Donc localement en Europe du Nord, on peut voir dans certains cas effectivement que il y a des précédents dans un certain nombre de cas statistiques. Mais globalement, quand on prend les choses dans leur ensemble, ce qui en ressort, c'est enfin, il n'y a pas l'impression d'un optimum médiéval climatique global. Localement, peut-être, il y en a eu un, je ne le nie pas, mais ça n'est vraiment pas l'impression globale qui ressort de ce genre d'analyse. En revanche, ce qui ressort vraiment de façon très très forte, c'est que le réchauffement récent est hors du commun. Alors voilà. Effet temporel, parlons-en un petit peu, sans s'éterniser. Une des choses qui peut être tentante de faire, c'est de comparer certaines de ces reconstructions à d'autres. Et donc ça, c'était par exemple une figure qui a été publiée dans un article de Ulf Bungen, un collègue suisse, où il regardait certaines reconstructions basées sur des cernes d'arbres avec celles de Pages 2K. Alors, on compare un peu des pommes et des poires parce que ces reconstructions sont locales. Celles de Pages 2K essayaient de représenter tout le globe. Donc déjà, il y a des différences. Mais c'est une question assez légitime, en fait. Comment comparer en fait ces reconstructions de façon quantitative, et à partir de quel moment est-ce qu'on peut se dire que deux reconstructions divergent, qu'elles ne sont plus compatibles en fait? Ou une autre façon de demander, c'est est-ce que les différences qu'on observe sont significatives? Donc j'ai fait ça récemment dans un papier que je partagerai dans une seconde. Où là, c'est encore un article de Ulf Bungen, cette fois avec plus de collaborateurs, où en fait, ils ont fait tout un tas de reconstructions de la température de l'hémisphère nord à partir de cernes d'arbres en utilisant un certain nombre de choix, en fait, en faisant varier tout un tas de choix, des choix méthodologiques. Et en fait, il y a une quinzaine de groupes qui se sont attelés à ça. Donc, il y a 15 reconstructions. La moyenne est en vert. Et donc, ce qui est tentant de faire, c'est de comparer avec, par exemple, une des reconstructions à laquelle j'étais associé, donc celle qui est en jaune, qui est celle du Last Millennium Reanalysis. On fait un peu la même chose, mais en retournant un peu les choses sur la figure du bas, où là, cette fois, on regarde toute la distribution statistique du Last Millennium Reanalysis. Et là, on le compare à la médiane de ces reconstructions de Bungen et al., qui est là en rouge, Donc, en fait, on regarde la même chose, mais avec deux optiques différentes. Et alors, effectivement, les effets d'œil, les effets d'optique peuvent tromper un peu. Il y a des cas où on voit des différences très très marquées. Par exemple, vous voyez cette reconstruction violette là n'a pas de commune mesure avec celle en jaune. Mais cela dit, il y en a d'autres qui sont cachées derrière la jaune, en fait, qui sont peut-être compatibles. Alors, comment répondre à cette question? Comment étudier cette comptabilité? Pardon, compatibilité de façon rigoureuse. Et une façon de le faire, c'est d'introduire une nouvelle notion de mesure. Alors, un des contextes aussi où ça se présente, c'est de regarder les différences entre les modèles et les données. Donc ça, c'est toute une ribambelle de modèles du précédent GIEC en fait qui ont été faites. Et là, pareil, on voit un certain nombre de reconstructions qui n'ont pas de commune mesure avec la densité grise, donc qui représente les reconstructions. Et en gros, il y aurait que celle qui est en jaune là, qui aurait des points communs avec la reconstruction. Alors, je vais pas m'étendre sur les maths, mais ce qu'on a fait dans un travail récent qui est en fait en cours de parution, donc vous pouvez avoir accès à l'article soumis ici, c'est tout simplement enfin tout simplement, non, ça n'est pas tout simple, mais nous avons proposé une nouvelle métrique, en fait, une nouvelle mesure de distance qui permet de mesurer la distance entre des faisceaux de trajectoire. Donc on appelle ça plume distance en anglais, distance de faisceau en français. Et donc ça permet de quantifier la différence, donc que ça soit d'ailleurs entre des modèles et des données, entre des modèles eux-mêmes, ou entre des reconstructions qui ont un ensemble de trajectoires en fait. Donc c'est une notion très générale qui s'applique à ce genre de problème. Et ça permet de dire, voilà, donc entre l'ensemble bleu et l'ensemble orange, où on voit que bon, globalement, ils ne sont pas l'un sur l'autre, mais il y a quand même un certain degré de recouvrement, bah, comment est-ce qu'on peut rigoureusement quantifier la distance entre les deux? Alors, je vais vous passer les détails, mais en gros, on peut obtenir ces nombres qui sont des nombres en fait dans les unités d'origine. Donc, si on regarde la température, bah, ces nombres sont en degrés Celsius. Et donc, on voit que dans un certain nombre des cas, ces nombres sont relativement élevés, mais dans les cas qui sont en gras, ces nombres sont en gros sous le seuil de détection. Donc, ce qui veut dire que dans toutes les cases là de ce tableau qui sont en gras, ça veut dire que les modèles sont en accord avec cette reconstruction. Et dans tous les cas où les nombres ne sont pas en gras, ça veut dire que les choses sont incompatibles. Donc effectivement, on retrouve ce résultat, enfin que vos yeux vous donnent, c'est-à-dire que à part en fait cette trajectoire jaune qui est donc l'ensemble de CESM, de Last Millennium Ensemble, les autres simulations ou les autres ensembles sont très divergents. Donc ça, on le voit bien avec les yeux, mais là maintenant, en fait, on a une méthode quantitative pour quantifier cette différence. Donc c'est pas le plus intéressant. Ce qui est plus intéressant peut-être, c'est de revenir à cet exemple où on compare les reconstructions de l'hémisphère nord de Bungen et Tal. Et là, ce qu'on voit en fait, c'est que donc il y a toutes les densités de probabilité là, toutes ces collines colorées, ça correspond en fait à la distribution de cette distance. Et donc là où c'est coloré, ça veut dire que ces distances-là sont incompatibles, enfin ces distances-là sont plus grandes que le seuil qui est ici, cette barre verticale pointillée. Et donc ce qui est intéressant de voir là, c'est qu'il y a en fait 5 de ces reconstructions qui sont en deçà du seuil, c'est-à-dire qu'il y a 5 reconstructions qu'on peut dire qui sont compatibles avec la cible, donc en l'occurrence la LMR 2.1. Et il y en a donc le reste, donc 10 sur 15 qui ne le sont pas. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que par exemple, quand on regarde la moyenne d'ensemble, eh bien, il y a une certaine, la plupart des membres de cette moyenne d'ensemble sont en fait compatibles avec l'ensemble LMR. Donc voilà, ça donne, c'est surtout en fait un point de méthode, mais je pense que c'est important vu qu'on parle maintenant, on a accès à de plus en plus de méthodes qui ont des trajectoires, et ce genre de méthode permet d'obtenir des résultats beaucoup plus quantitatifs sur les comparaisons en fait entre ces différentes reconstructions. Et comme ça, on peut voir par exemple que parmi les différentes reconstructions qui composent l'ensemble de Pages 2K 2019, la plupart sont compatibles, à part en fait l'une d'entre elles qui s'appelle OIE. Voilà, alors dans les quelques minutes qui restent, je voudrais parler un petit peu en fait du futur. Puisqu'on cette journée vient de s'achever, je vous remercie de votre patience pour ceux qui sont restés. Donc, on a maintenant une véritable explosion des méthodes d'assimilation, comme le soulignaient les intervenants précédents, que ce soit d'ailleurs pour les deux derniers millénaires ou beaucoup plus loin dans le temps, c'est-à-dire que on a appliqué ce genre de méthode maintenant pour reproduire les températures depuis le dernier maximum glaciaire, le Pliocène, le Phanérozoïque d'ailleurs, il y a tout un tas de travaux récents, en particulier menés par Jessica Tierney. Donc il y a tout un tas de choses. Ces méthodes-là donc sont très puissantes. En Europe, donc outre les travaux d'Hugues ou de Myriam sur ça, il y a aussi nos collègues suisses avec une reconstruction là, celle de Valeur et Tal 2023. Donc il y a tout un tas de choses. Je ne peux pas y faire justice ici. Je ne peux pas leur rendre justice. Simplement, je voudrais souligner le fait qu'il y a de plus en plus maintenant de reconstructions dites en ligne et que ça permet en fait de faire de gros progrès. Si on regarde par exemple la reconstruction de Perkins et Hakim, donc qui utilisent en gros les mêmes données qu'avant, les données Pages 2K et les mêmes modèles, mais là maintenant qui utilise un algorithme en ligne qui utilise en fait un émulateur très très simple de ces modèles climatiques et qui permet de respecter en fait la physique du climat, enfin d'approximer en fait l'évolution temporelle du climat, ce qui n'était pas le cas dans le dans celle d'avant. Donc là, pour un point de comparaison, il y a ces reconstructions hors ligne que je vous ai montrées auparavant, où on voit effectivement que, par exemple, dans le premier millénaire, les choses sont très très plates, et ça c'est vraiment un artefact, encore une fois, du fait qu'on a peu de données, ou des données de moindre qualité. Et bon, là, je vous montre pas les incertitudes parce que elles sont pas disponibles pour cette analyse, mais en gros, il faut pas se fier à ça. On dit pas que le climat avait arrêté d'osciller. C'est tout simplement qu'on n'a pas d'informations là-dessus. C'est pour ça que c'est aussi plat. Et un des gros avantages des reconstructions en ligne, qui à mon avis sont le futur de ce genre de choses, c'est que on a maintenant une variabilité temporelle qui est beaucoup plus constante dans le temps et qui respecte beaucoup plus la physique du climat. Et ce qui est remarquable dans cette approche, c'est qu'en fait, c'est fait à un coût bien moins, donc c'est beaucoup moins cher que de faire tourner un modèle de climat, parce qu'on utilise un émulateur qui est en fait très simple à produire et à utiliser. Donc à mon avis, ça sera le futur de ce genre de choses. Une autre partie du futur, c'est le passé, en l'occurrence les données historiques qui sont maintenant de plus en plus utilisables, en particulier grâce à ces efforts-là, DocuClim. Donc ça, c'est une compilation de données historiques assez récentes par Burgdorf et al., aussi menée par des collègues suisses, mais il y a énormément d'historiens français qui s'y sont attelés. Et donc, ce sont des données de tout un tas de types, par exemple la phénologie dont Valérie Do a pu parler plus tôt dans la journée, ainsi que d'autres variables. Et en particulier, une des choses qui est très utile pour cette partie, en ce qui concerne les reconstructions, c'est que on peut faire une traduction assez directe en fait des variables climatiques vers les variables mesurées. Et donc, ça, voilà, il y a aussi en particulier les dates de vendange. Donc, les choses dont vous avez pu entendre parler auparavant aujourd'hui sont incluses dans ce genre de base de données. Et ça, on peut l'utiliser pour deux choses. On peut l'utiliser pour faire de la validation indépendante. Comme le soulignait Edouard, c'est très important d'avoir un autre moyen de savoir si en fait ces reconstructions nous racontent des choses qu'on puisse croire. Et l'autre façon, c'est tout simplement de les faire rentrer aussi dans le système d'assimilation, mais encore une fois, de garder à chaque fois un jeu de données assimilé et un jeu de données non assimilé qu'on utilise pour valider les choses. Alors, en finissant, je voudrais parler aussi d'efforts auxquels je suis associé avec le projet Presto, où en fait, on a un site web que je pourrais partager peut-être après la conférence, mais qui on peut trouver diverses choses. En particulier, on peut accéder à un certain nombre de ces reconstructions. Donc, il n'y a pas besoin d'écrire du code. On peut aller en fait les visualiser soi-même. Et en l'occurrence, on peut regarder, faire des comparaisons entre les méthodes. Alors, je vais essayer de voir si je peux faire passer une autre partie de mon écran. Voilà. Donc là, c'est un exemple où on regarde la réponse à l'éruption de Samalas, par exemple en 1259. On peut faire la même chose pour 1258. Et on regarde en fait à gauche, vous avez LMR dont je parlais avant, et à droite, vous avez une autre reconstruction. Et en fait, on peut aller chercher les choses et on peut regarder en fait faire passer de l'un à l'autre et regarder que bah, dans certains cas, même si on utilise des méthodes et des jeux de données relativement similaires, on a des résultats qui peuvent être très différents. Donc ça, c'est voilà, c'est à l'usage du grand public et c'est pour encourager les gens qui ne sont pas nécessairement des climatologues à aller regarder ces reconstructions et à les utiliser. Une autre chose que nous faisons, c'est de permettre, alors ça c'est encore en construction, de faire vos propres reconstructions. Donc sans faire tourner le code, en gros, vous passerez commande, enfin il sera possible de passer commande. Alors pour le moment, ce sont les trois méthodes ou les trois cas de figure qui sont disponibles, mais bientôt, on aura l'assimilation de données sur les deux derniers millénaires. Et en gros, vous pouvez passer commande et vous obtiendrez, une fois que la reconstruction sera prête, un email de ce type-là avec un lien vers les fichiers. Et donc, si vous vous intéressez par exemple à une région précise ou si vous voulez utiliser seulement un certain nombre de données, on peut pas effectivement étudier tous les cas de figure, comme le disait Hugues. En général, les gens qui font ces reconstructions, ils ont un but précis en tête, mais il n'est pas forcément le vôtre. Donc, si vous avez envie de générer vos propres reconstructions, ça devient de plus en plus facile. Et c'est en particulier le cas parce que maintenant, une base de code qui est robuste, qui est testée et qui est très utilisable. Donc, ça, c'est le package CFR développé par mon ancien étudiant Feng Zhu. Voilà, et donc en particulier, j'ai voulu faire une mise à jour de LMR en utilisant non seulement les données Pages2K dont on a pu parler, mais des compilations plus récentes, par exemple celles de Coral Hydro2K ou ISO2K, qui sont des projets plus récents. Alors, ce sont des résultats extrêmement préliminaires, mais c'est pour montrer que voilà, c'est quelque chose que j'ai fait dans la semaine précédente, et c'est maintenant assez facile de le faire. Et j'espère que dans le futur, il sera de plus en plus facile en fait de générer des reconstructions et de ne pas avoir à attendre 10 ans pour la prochaine mise à jour. Voilà, j'arrive à la fin de cette présentation, donc je vais aller directement vers les conclusions. Donc, reconstruire le climat, ce qui est important de voir maintenant, c'est qu'on a beaucoup de jeux de données, on a beaucoup de méthodes, et on a aussi beaucoup plus de simulations, donc on peut commencer à faire des choses beaucoup plus intéressantes. On connaît mieux les forçages, on connaît mieux la réponse du climat, aussi qu'on connaît mieux la façon dont les proxys répondent, et tout ça permet de faire des études de plus en plus précises. Actuellement, la fusion modèle données est très importante. Cela dit, c'est en évolution constante. Et il est très important de ne pas prendre ces choses-là pour vérité d'évangile. Je vois parfois des collègues en histoire qui considèrent que comme nous autres climatologues font des sciences dites dures, en gros, tout est connu de façon exacte. Et ce n'est évidemment pas le cas. Donc, comme l'exemple précédent pouvait le montrer, il est très important de comparer des reconstructions parce que y a une incertitude irréductible qui perdure. Mais tout ça permet de faire des choses de plus en plus intéressantes, comme le montrait par exemple Hugues. On peut faire donc detection and attribution. On peut aussi faire des estimations de la sensibilité climatique, comme je ne l'ai pas montré ici, mais ça permet. Il y a de plus en plus d'applications en fait pour mieux comprendre le climat. Et tout ça vient du fait qu'on peut maintenant représenter à la fois le temps et l'espace, mais effectivement, dans les deux cas, les incertitudes sont primordiales et doivent être représentées. Et une des choses qu'on peut faire avec ça, c'est de regarder à quel point certaines anomalies historiques, en fait, dans quel cadre spatial elles s'inscrivent. Et d'après mes analyses, en tout cas, on ne voit pas vraiment d'empreinte globale de cet optimum climatique médiéval. Alors que c'est très très clair pour le réchauffement anthropique. Voilà. Et donc pour le futur, je pense que une des choses qui va vraiment aider à mieux connaître le climat depuis l'an zéro, c'est d'avoir de plus en plus de données standardisées, d'avoir également des codes qui sont partagés de façon open source, en anglais dans le texte, pour que tout le monde puisse expérimenter en fait et faire ses propres constructions. Donc il y ait plus d'expérimentation, plus d'exploration, plus de tests. Plus de validation, histoire d'aller un peu chercher les choses. Les données historiques, à mon avis, ont un rôle important à jouer et il faut vraiment continuer dans cette mouvance, inspirée en grande partie par le travail, les travaux d'Emmanuel Leroy-Ladurie et de tous les gens qui ont pu lui succéder en France comme ailleurs. Et je pense en fait que le dialogue entre historiens et paléoclimatologues est primordial, et c'est une des raisons pour lesquelles j'aimerais beaucoup être dans la salle aujourd'hui, mais je ne suis pas des vôtres. Donc voilà, s'il reste du temps, je serais ravi de répondre à des questions. Et pour finir, je veux inviter ceux d'entre vous qui peuvent venir en Californie en mars à nous rejoindre pour un workshop où on pourra justement confronter les perspectives historiques et paléoclimatiques.
Collège de France. Le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-2-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.